Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise. Sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On est en direct du MIPIM, un MIPIM effectivement, un MIPIM d'après pandémie, on peut le souhaiter. En tout cas, un MIPIM où il nous fait bien plaisir de nous retrouver. Voilà, un vrai beau MIPIM comme il était avant cette pandémie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est plutôt un carton plein en termes d'audience, puisqu'on va en parler d'ailleurs tout de suite avec le directeur du MIPIM. Renan Vaspart est avec nous. Bonjour, Renan.
Bonjour à vous.
Comment
Bonjour,
ça va Renan.
Mais très, très bien.
Merci. On va parler justement de ce start du MIPIM qui démarre sur des chapeaux de roue. Et pour une première à la radio, on se sera rendu bientôt public, n'est-ce pas, Stéphane? Il est avec nous. Il est notre conseiller, senior advisor et journaliste animateur, Stéphane Moquet, avec nous. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Sylvain. Bonjour, Renan. Bonjour,
comment Stéphane. Ça va, Stéphane?
En pleine forme aujourd'hui. C'est vrai que c'est une première. On va en parler pour le salon du MIPIM, mais ça tombe très bien puisque le pass vaccinal a été suspendu. Et ça nous permet de se retrouver. On peut poser une première question, c'est quelle est l'audience attendue et le nombre de visiteurs, Renan ?
Bien écoutez, on devrait accueillir plus de 20 000 personnes cette année, ce qui est un très très bon chiffre. J'ai presque envie de dire en toute sincérité, je suis toujours assez sincère sur votre plateau, mais il y a encore quelques semaines, on espérait accueillir entre 15 et 17 000 personnes, ce qui était déjà une belle performance après ces deux années d'absence. Et là, depuis un mois et demi, depuis aussi l'annonce de la suppression du pass vaccinal, depuis la suppression de certaines restrictions de voyage...
Le masque, voilà.
Le masque, exactement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de participation. Et je pense qu'on devrait largement dépasser les 20 000 à la fin de la semaine.
C'est presque un record, parce que le record, c'était 2019.
Alors, le record était 2019. On a eu pratiquement 27 000 personnes, qui était vraiment l'édition record. Là, on est à peu près sur les niveaux de 2017, ce qui est vraiment une extrême satisfaction, vu le contexte actuel.
Alors, ce MIPIM est placé sur... on voit la baseline, c'est Urban Change.
Oui, absolument.
C'est intéressant dans le mot, et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette thématique, parce que dans Urban Change, il y a aussi une modification qui est quasi anthropologique. Vous savez que je parle beaucoup d'anthropologie urbaine, de changement urbain. Est-ce que ça veut dire que le MIPIM aujourd'hui est marqué plus que d'habitude sur, par exemple, des classes d'actifs comme le résidentiel, qui a fait un carton absolument incroyable, justement grâce, enfin, aux causes de la pandémie, où on a vu des foncières qui avaient des allocations d'actifs sur du bureau très importantes, revenir massivement sur le résidentiel. Est-ce que c'est ça que vous allez vouloir faire ?
Alors, en partie, c'est ça. Quand on a réfléchi à la thématique de ce MIPIM 2022, on ne pouvait pas ne pas penser aux deux années de pandémie que l'on avait vécues. Et même si certains éléments avaient déjà été initiés bien avant la pandémie, comme la prise en considération pour toute la fabrique de la ville et l'industrie de l'immobilier en général, de toute la dimension environnementale, sociale, tout ce qui est lié à la gouvernance, il n'empêche que la pandémie a accéléré ces éléments-là et a fait que maintenant c'est devenu un sujet, dans toutes les bouches, et on le verra aussi dans le programme de conférence, il n'y a pas une société, il n'y a pas un speaker qui ne va pas évoquer ces thématiques-là. Donc oui, toute la dimension ESG, donc environnement, social et gouvernance, c'était aussi pour nous l'objectif de se dire nous sommes tous acteurs au MIPIM de la manière dont on va dessiner la ville de demain. Et pour créer, pour conduire ce changement urbain, il faut effectivement prendre en considération beaucoup plus les attentes de l'utilisateur final, que ce soit au niveau du logement, comme vous le disiez à l'instant, que ce soit au niveau du bureau, comment allons-nous vivre le bureau demain suite à la crise pandémique ? Et voilà, comment on conduit le changement urbain ? Comment on donne la parole au citoyen final ? Quelle est la ville pour le citoyen ? Et c'est tout ça qu'on a voulu mettre à l'intérieur de cette thématique. Et j'ajouterai un dernier point extrêmement important qui était déjà très cher à notre cœur au MIPIM, c'est aussi toute la dimension et l'intégration de la dimension technologique et innovante, et c'est la raison aussi pour laquelle il y a tout un track autour de l'innovation avec notre marque sœur de MIPIM, Propel by MIPIM, qui est dorénavant à Cannes forever.
Et intégré dans le truc. C'est extrêmement intéressant, Stéphane.
Mais quelles sont les principales mutations que vous voyez apparaître ? C'est une accélération, la Covid a changé évidemment des comportements, et dans le marché résidentiel, on a pu le constater avec... j'allais dire, la reconquête des villes moyennes. Comment vous voyez la ville de demain et quelles sont les principales tendances et les attentes des utilisateurs dont vous parlez, c'est-à-dire des citoyens que nous sommes?
Oui, absolument. Alors, j'imagine encore plus de choses à vous dire à la fin de la semaine, parce que l'objectif,
oui, il faut le vivre.
C'est justement d'écouter toutes les conversations et d'entendre tous les acteurs français, mais aussi internationaux, puisque c'est plus de 80 pays qui sont présents à Cannes aujourd'hui. Mais très clairement, et Sylvain le disait à l'instant, il y a un retour en grâce du résidentiel. Que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour les promoteurs, les foncières, tous les acteurs de l'immobilier. Il y a effectivement une transformation. Alors, la transformation tant du logement que du bureau, on l'annonçait il y a un an et demi au début de la crise pandémique. Alors, le logement, tout le monde va vivre dans les campagnes. Le bureau est mort.
Oui, oui, bien sûr.
Tout le monde se met en télétravail, etc. Oui. Donc là, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. On a vécu plusieurs confinements. Les gens ont carrément... saturé, pour parler poliment, d'être dans la chambre de l'enfant pour travailler. Mais effectivement, pour être plus direct, oui, on voit que le logement n'est plus le parent pauvre. Au MIPIM, on en parlait, mais on en parlait peu. Là, c'est devenu un trac à proprement parler. Vous avez de nombreuses foncières qui investissent là-dedans. Alors effectivement, on voit des transformations. On voit des logements qui font plus la part belle à l'extérieur. On voit quand même des destinations à partir du moment où elles sont connectées d'un point de vue mobilité, d'où l'importance dans toutes les villes représentées ici de l'infrastructure, de la mobilité pour accéder quand même facilement dans les centres-villes. On voit aussi beaucoup plus, c'était déjà le cas avant la pandémie, mais ça se poursuit et vous le verrez au MIPIM Awards jeudi soir dans les projets qui sont finalistes et qui seront récompensés, beaucoup plus de mixed use. Donc pour répondre à votre question, la ville de demain, selon moi, et là c'est Ronan qui parle, c'est pas forcément MIPIM, mais c'est effectivement beaucoup plus de mixité, de diversité, d'inclusion, d'accès au transport, la mobilité est essentielle. Et
quand on voit en plus le prix de l'essence, ça pose toujours évidemment des problèmes parce que ça vient freiner, évidemment, pour des gens qui sont isolés. Ça a un coût, donc il faut assurer la mobilité.
Absolument.
Et la fracture numérique, c'est aussi un vrai sujet.
Alors vous êtes très branché, ça c'est historique, hein, depuis qu'on bosse ensemble, effectivement, sur les contenus éditoriaux, c'est-à-dire contenus, vous partez du principe, effectivement, et je pense que vous aviez déjà fait une analyse qui est très, très pertinente, en disant c'est bien l'économie de la rencontre, mais ce qu'il faut c'est fournir des contenus, avoir quelque chose qui donne du sens. Quand je regardais le programme, je me disais, mais on a l'impression qu'il y a eu un volume de contenu extrêmement important. Est-ce que ça veut dire que le MIPIM, nouvelle formule quelque part, c'est beaucoup plus justement d'interventions, de speakers, de conférences? On a l'impression que c'est vraiment très très net. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout Sylvain, c'est effectivement le cas. Et c'est marrant parce que chaque année on se dit on a beaucoup beaucoup de conférences, il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne s'agit pas d'organiser une conférence avec des speakers prestigieux, il faut s'assurer que la salle soit pleine.
Oui, bien sûr.
Et chaque année les salles sont pleines et chaque année, alors nous on a ce souhait effectivement, comme vous le dites Sylvain, de ne pas être juste un marché ou une zone d'exposition, mais vraiment d'apporter du contenu, d'avoir une dimension de thought leadership, je ne sais pas comment on le dit en français, mais pour se dire, on est là pour aussi être un peu un agitateur ou un trendsetter, un agitateur d'idées, de curiosités, pour inciter les différents participants du MIPIM à aller un peu plus loin dans la réflexion et se dire, parce qu'on a la chance, et c'est la seule plateforme où vous avez plus de 80 pays représentés, de mettre dans une même salle des gens de nationalité, d'origine, de sociétés différentes, pour pouvoir partager les idées et apprendre de cela. On a aussi beaucoup d'événements sur invitation uniquement, dédiés aux politiques, dédiés aux investisseurs, où à l'issue de ces événements, on a des étudiants de plein d'écoles différentes qui viennent écouter les conversations et sortir des rapports pour dire voilà les outcomes des investisseurs institutionnels, les outcomes des leaders politiques. Oui, c'est important pour nous, mais c'est extrêmement important pour l'ensemble de nos clients. En fait, on se rend compte que tous nos partenaires ne sont plus juste là pour exposer, pour montrer une certaine visibilité, mais ils veulent asseoir leur positionnement stratégique, leur positionnement marketing aussi sur des thématiques, que ce soit le logement, on en parlait tout à l'heure, l'innovation ou tout autre type de sujet.
Parmi les invités célèbres, en keynote, vous avez un ancien président de la République,
exactement,
François Hollande, à 15h. Quel est le thème d'ailleurs de cette intervention?
Alors, très clairement, le président François Hollande, effectivement, vient à 15h. J'ai envie de dire, il fait suite, puisque ça fait maintenant deux éditions, on a souhaité faire appel aussi à des leaders très charismatiques. Ça a été l'ancien secrétaire général des Nations Unies en 2019, Ban Ki-moon, le président Sarkozy en 2020. Et parce qu'on sait aussi que les élus, la politique, est complètement intégrée à l'immobilier. Donc il nous semble important de leur donner la parole. Dans le cas de François Hollande, quand j'ai fait appel à lui et qu'il a accepté avec grand plaisir, c'était vraiment lié à notre thématique, Driving Urban Change. Le président Hollande, c'est le président des accords de Paris, COP21, 2015. Et s'il y en a un qui pouvait justement nous impulser, donner son regard, et je sais, pour avoir préparé un peu avec lui son intervention, et puis il sera aussi interrogé par Stéphanie Ben-Simon de Ardian et Nicolas Ledoux de Arcadis, je sais qu'il va parler pas mal de la ville décarbonée, il va parler pas mal du logement, justement, et je pense que son regard est extrêmement écouté en France, bien entendu, mais dans le monde entier, parce que c'est un homme d'État, c'est le président de la COP et de la COP21, et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à lui cette année. Et vous aurez demain, j'en profite quand même,
mais oui,
c'est également l'occasion. Le maire du Havre, Édouard Philippe, eh oui, ancien Premier ministre, qui vient lui également demain faire un tour du salon. Il interviendra à 15h15, et même chose, il, au travers de l'exemple du Havre, bien entendu, mais forcément, son rôle d'ancien Premier ministre sera très intéressant pour parler justement d'ESG, donc d'environnement, d'impact du changement climatique et de toute la dimension gouvernance.
Vous avez tout à l'heure indiqué qu'il y avait 80 pays représentés. Hein. Il y a un pays qui n'est pas représenté, c'est la Russie.
Oui.
Et on sait pourquoi. Bien évidemment, je sais que vous ne faites pas de politique, bien évidemment, et ma question n'est pas politique, mais elle est pragmatique. Elle est pragmatique. Il n'a échappé à personne que de toute façon, la question de la question ukrainienne ou le sujet ukrainien va se poser. Il se pose déjà dans tous les couloirs, bien évidemment. Notamment sur des classes d'actifs, effectivement, dans lesquelles il y a des interdépendances, notamment, puisqu'on le sait ici, à Cannes, comme sur la région niçoise, il y a une très forte présence russophone, vous le savez, hein, c'est historique, hein, depuis le début du XXe siècle. Et on se pose des questions. Est-ce que, à votre avis, cette question... je sais que vous n'avez pas voulu l'éluder, mais que vous avez fait très attention de ne pas entrer dans un contexte, on va dire, de position politique. Est-ce que cette question, vous sentez déjà qu'elle est prégnante parmi tous les investisseurs qui viennent ici?
Alors, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire, Sylvain, mais évidemment, cette question sera au cœur des conversations.
C'est clair.
On n'a pas voulu faire de conférence dédiée au sujet parce qu'on sait que ce sera toutes les conférences.
Oui, bien sûr.
Et oui, pour répondre à votre question, les Russes ne sont pas présents effectivement du tout au MIPIM cette année pour des raisons évidentes. Les Ukrainiens, quant à eux, un exposant a décidé de venir quand même, et on en est très content, et il est présent aujourd'hui au MIPIM. Oui, il y aura des impacts. Évidemment, j'ai envie de dire...
On peut donner son nom, c'est possible. On le donnera tout à l'heure.
On le donnera tout à l'heure. Si
et d'ailleurs, on le donnera tout à l'heure sur le plateau, puisque vous avez fait une chose pour nous et on vous en remercie, puisque la présidente de la fondation I Love You m'a demandé de vous remercier. Vous nous laissez aussi la possibilité, avec I Love You, de soutenir la cause ukrainienne pour les réfugiés, puisque effectivement, la question de l'accueil se pose aussi dans notre pays, bien évidemment.
Absolument. Et pour tous ceux qui cherchent le QR code, il se trouve dans le news ce matin et tous les jours de cette semaine. Donc, avec grand plaisir, pour soutenir effectivement cette initiative. Donc du coup, oui, là, évidemment le sujet va être dans les conversations. Aujourd'hui, c'est un peu dur de le faire. Moi, ce que je ressens plus, a priori, c'est que les investisseurs qui aujourd'hui investissent beaucoup ou pouvaient investir dans des actifs de ces pays-là vont forcément être regardés pour identifier la résistance financière, la fiabilité financière de ces sociétés-là. Donc l'impact, on ne va pas le voir tout de suite. On le verra dans un second temps. Et puis ça va dépendre aussi beaucoup de la durée de ce conflit, de l'issue de ce conflit. Mais on ne va pas passer au travers, évidemment, au niveau de l'immobilier. C'est évident. Maintenant, on n'a pas vu à date les conséquences immédiates, comme on peut le voir sur le blé dur ou sur d'autres types de matières
oui,
premières.
Le prix de l'essence. Il nous reste à peine une minute, justement. J'aimerais qu'on fasse le point, justement, 2022, c'est l'année de la reconquête, c'est l'année d'une certaine forme de résilience. On en a parlé tout à l'heure les qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, reviennent massivement.
Je ne connaissais pas ce terme-là.
Voilà, reviennent massivement sur les le logement. On l'a vu d'ailleurs. Mmh. Mais il y a un sujet, voilà, qui est le sujet de la décarbonation. Mmh. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et je voudrais vous donner juste un chiffre. La France est le premier émetteur de green bonds en Europe, avec 70 milliards d'euros d'émissions de green bonds. Alors, ce qu'on appelle les green bonds, ce sont des obligations vertes. C'est donc des ratios extra-financiers appliqués finalement à une finance ou à un capitalisme responsable. Est-ce que vous sentez, vous, Renan Vaspart, que tous ceux qui travaillent sur de l'investissement, les asset managers, les property, les foncières, les investisseurs, les véhicules d'investissement, ont intégré très rapidement finalement ces fameux labels ESG, environnement, social, gouvernance. Il y a même des personnes et des promoteurs qui ont des labels Bicorp. On a aujourd'hui des émetteurs d'obligataires qui aujourd'hui ont intégré ces sujets-là, et que dorénavant, finalement, dans la construction de la ville, ça va devenir monnaie courante.
Alors oui, 100% oui. En tous les cas, je vais parler de la France, on est chez Radio Immo aujourd'hui, de l'Europe en général. Je ne vais pas forcément faire une généralité dans le monde entier, puisque d'un pays à l'autre, ça peut évoluer. Mais oui, 100% oui. On voit bien qu'en plus, toutes les analyses extra-financières sont devenues tout aussi importantes que les analyses financières. On voit aussi tout ce qui est ISR, donc investissement socialement responsable, qui prennent de plus en plus de poids et qui ont des rendements, en plus, ces dernières années, même meilleurs que les autres.
Eh oui.
Donc oui, c'est pris en considération. Et on voit même, au-delà de l'investissement, qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent sur cette dimension-là. Je pense à la construction, par exemple, la construction en bois. Vous avez, entre autres, ici, Woodeum ou REI Habitat, qui sont très, très branchés là-dessus. Vous avez aussi le travail sur la réhabilitation des friches. Vous avez un Novaxia qui est très fort là-dessus. Vous avez aussi tout un tas d'initiatives. Je pense à Gessina avec le Café Joyeux, qui, effectivement, mettent à disposition effectivement des espaces très visibles pour mettre en avant le Café Joyeux. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives, il n'y a pas une société qui passe au travers. En France, c'est devenu très fort. On a aussi la loi Pacte qui a été mise en place, qui permet d'identifier aussi, de devenir des entreprises à mission. Donc je crois que Novaxia était la première d'ailleurs.
Absolument.
Il y a les agences à papa qui l'ont été aussi. Donc oui, ce sont des sujets extrêmement importants en France et en Europe. Et maintenant, on ne peut plus ne pas le faire, mais non pas parce que c'est bankable ou parce que c'est
pas que du marketing,
c'est sympa, c'est du marketing, c'est un positionnement, c'est juste de la citoyenneté. Enfin, tout le monde est concerné par ce sujet.
Non, mais c'est intéressant que la finance ait intégré des ratios extra-financiers, parce que ça donne une couleur différente où la question humaine, la question de la place centrale de l'humain, et cette fois-ci, elle est vraiment installée dans l'économie, ce qui est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Renan.
C'est moi qui
je rappelle que vous êtes le directeur du MIPIM. On va bien sûr suivre l'ensemble de ces programmes. Encore une fois, je réitère les remerciements au titre de l'équipe du soutien que vous avez fait à la cause ukrainienne en nous laissant la possibilité de faire cette table ronde à Éloge Ukraine avec nos amis de la Fondation Élogeou. On a décidé aussi de dédier toute cette semaine et ce MIPIM à un homme disparu trop tôt. Qui a marqué les esprits, et Stéphane en sait quelque chose puisqu'il a travaillé pour lui il y a un peu plus de 20 ans. Il était le président emblématique de Century 21. J'aimerais que nous ayons, et on va le faire à chaque interview, toujours une pensée pour Laurent Vimont.
Absolument.
Ses amis, ses proches, sa famille. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup nous manquer. Merci Renan Vaspart.
Merci Stéphane.
Et on enchaîne la suite de nos émissions. Vous allez voir, ça vaut le coup de rester connecté.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize sur Radio Immo.